Chapitre 16. Le chant de la sirène. Atlantis s'était arrêté de compter, les yeux fixés sur un point vague de la tremblante perspective que faisaient les eaux. Au-delà des parois transparentes du jardin, elle semblait accablée par la vision qu'elle venait d'évoquer, par la grandeur et la mélancolie de ce passé trop pesant pour sa jeune tête, et dont elle allait peut-être se voir l'héritière unique, la solitaire épave. Profondément émue, Renée lisait en quelque sorte sur sa physionomie naïve le fond de sa pensée. Combien il la trouvait touchante dans sa tristesse sans larmes, dans son abandon qu'elle-même n'analysait pas, dont elle ne pouvait mesurer la poignante étrangeté. Si noble, si belle, si absolument pure de tout contact grossier ou vulgaire, quels hommages n'aurait-elle pas reçus, quels empressements n'aurait-elle pas soulevés sur son passage, quels soins, quels dévouements, quelles affections ne l'auraient pas suivi s'il n'avait plus au destin capricieux, après l'avoir revêtu de beauté, formé pour ravir l'œil des vivants, de cacher cette perle rare au fond de l'océan. Quelle étrange existence avait été la sienne. Jamais avant Renée, elle n'avait vu un jeune visage. Toutes les paroles qu'elle avait entendues étaient solennelles et graves. Elle n'avait pas connu le langage puéril, ce doux babillage de l'enfance. Elle ignorait le délassement de parler pour ne rien dire. Bien plus, elle ignorait la plus innocente plaisanterie. Toujours on lui avait tenu de doctes discours, et elle-même usait en parlant de ces amples périodes, de ces métaphores fleuries qui sur ses lèvres eussent paru bizarres si tous ses actes n'eussent été touchés de grâce et de simplicité. Combien cette jeune vie aurait besoin de joie et de soleil, se disait-il. Que ne donnerais-je pas pour lui faire connaître ma mère si bonne, Hélène si vive et si aimable. Patrice va accourir à mon appel, j'en suis sûr. Quand m'a-t-il fait défaut, le brave cœur? Mais lui, c'est encore un homme, et je voudrais tant voir Atlantis au milieu de ses pareils, combler cette lacune, la plus navrante de toutes, dans cette existence si cruellement sevrée d'affection, d'un amour de mère, de sœur, d'amie, de servante même, mais au moins d'une affection féminine. Des paroles de sympathie, d'encouragement, d'espérance se pressaient de son cœur à ses lèvres. Il aurait voulu lui dire que, près de tout perdre, elle avait trouvé un ami, que si sa vie avait été sombre, il voulait la faire brillante. Mais le respect, la crainte de déplaire au vénérable Cariclès, peut-être celle de n'être pas compris d'Atlantis, lui fermait la bouche. Car, avec sa haute culture grecque, la jeune fille était ignorante de tant de choses, si étrangère, on le conçoit, à tout un ordre de sentiments qui constitue l'âme moderne. Avant de l'étonner par des professions d'amitié prématurées, ne valait-il pas mieux essayer de se bien comprendre réciproquement, de lui révéler, en lui faisant connaître sa personne morale, ce qu'était en abrégé ce monde de là-haut dont une dure loi l'avait séparé? Ne devait-il pas tâcher surtout de dissiper le noir nuage de cette solennité de prêtresse qui pesait sur elle comme une chape de plomb, lui apprendre la gaieté de son âge, le rire qu'elle ignorait, et, de la majestueuse isolée, faire sortir la jeune fille simple et douce qu'elle était au fond? Il serait temps, alors, d'aborder le chapitre de l'avenir, lui apprendre que, si elle n'avait pas eu de famille proprement dite, ni berceau, ni foyer, ni cercle d'amis, des perspectives plus riantes allaient s'offrir à elle. Ainsi guidé par la plus délicate prudence, le jeune homme se défendit d'exprimer les vives pensées de son cœur. Par des questions adroites, il s'efforça seulement d'arracher Atlantis à l'oppression qui pesait sur elle. Des grandes lignes et des faits écrasants de l'histoire de sa race, il la ramenait par degrés à des détails plus familiers, plus riants. Il lui fit dire la vie nouvelle en ce monde submergé, comment on avait substitué en presque toute chose l'art à la nature, à quel perfectionnement la nécessité, mère d'invention, avait amené les exilés ainsi qu'en témoignait hautement la délicatesse, le fini, le point exquis des moindres objets qui leur servaient. Comment la tradition avait été entretenue pieusement, dévotement, alors que les générations nouvelles avaient grandi et que, jusqu'au dernier des anciens ayant disparu, il ne resta plus un seul habitant d'Atlantide qui eût respiré l'atmosphère commune ou perçu la lumière du jour. Comment, quelques mois après sa naissance, une épidémie mystérieuse lui avait enlevé sa mère et balayé d'un seul coup parents, famille, nourrice et amis. Comment enfin la race, si longtemps vigoureuse et forte, se trouvait aujourd'hui réduite à ses seuls représentants, Chariclès et Atlantis. Mais, tout en l'amenant à raconter ces choses, René s'attachait à en écarter le côté sombre, à en faire ressortir l'aspect pittoresque ou heureux. Si quelques détails touchaient en lui l'accord humoristique, il s'empressait de le commenter plaisamment, et la jeune fille, qui n'avait jusqu'ici connu que le rire tonitruant des rudes guerriers d'Homère, laissait entendre un frais éclat de sa gaieté, aussi étonnée que ravie de pénétrer dans un domaine, à elle inconnu, celui du sourire. Il prenait prétexte de tout pour lui enseigner non seulement quelques mots de français, mais des notions sur notre monde, ses institutions, ses usages, ses modes, ses grandeurs et ses ridicules, et il avait la joie de voir se fondre peu à peu la sévérité de ce visage, le langage prendre un tour plus simple et plus familier, un amusement d'enfant venir se peindre sur ses traits exquis, et même, nouveauté inouïe, une expression spirituelle étincelait parfois au fond de son œil bleu. « On n'est pas pour rien l'arrière-petite cousine d'Aristophane », se disait René, ravi de la vivacité de la jeune grecque. Il aurait été trop fort aussi que, venant de pareille souche, ce trait propre de sa race, le don consolateur entre tous, de saisir le côté amusant des choses, eût été refusé à une créature aussi parfaite. Cher Atlantis, que de capacité, que de talent sommeille probablement en elle. Puissais-je donner à cette noble nature le champ qu'elle mérite pour se développer librement et harmonieusement? Ah, je ne puis trop me le répéter à moi-même, combien ma mère et ma cousine feraient de miracles ici. Avec sa merveilleuse intuition, sa souplesse toute athénienne, elle saisirait les choses avant qu'on les lui eût expliquées. Je me suis dit parfois qu'il serait dommage et presque impie de draper cette muse antique dans une toilette de la rue de la Paix, de remplacer sa sandale par une bottine et ses bandelettes par un chapeau enrubanné. Pur préjugé, je suis sûr, je le comprends maintenant, qu'en une semaine, en quelques heures de séjour à Paris, elle aurait pénétré, compris le costume moderne. Il n'y a que la rusticité qui soit l'ennemi inné de la mode, et qui, mieux que les Grecs, a compris le culte du nouveau. Y a-t-il en fait de vêtements un beau absolu? Tout ne dépend-il pas de la grâce avec laquelle on le porte? Et qui pourrait lutter de grâce avec elle? Il en sera de même de tout le reste. Elle comprendra sans effort, elle s'assimilera tout ce qui est beau et bon. Elle deviendra bien vite la plus accomplie des Françaises. De longues heures passèrent, si intéressantes, si pleines d'impressions nouvelles, de révélations réciproques, d'excursions en pays inconnus, où chacun prenait tour à tour le rôle de guide, qu'il leur semblait impossible plus tard, en se remémorant ces journées, de croire qu'elles n'avaient eu que la mesure ordinaire. Et ils avaient raison, car les heures, comme les siècles, sont une mesure conventionnelle, et celle-là contenait toute une époque de leur vie. Cependant, durant le long récit de sa fille, Chariclès était peu à peu retombé dans son silence et son immobilité. Attentif d'abord, ses yeux n'avaient pas tardé à se clore, et bientôt sa respiration lente et profonde vint leur apprendre que son inquiétante somnolence l'avait repris. Atlantis, la pauvre enfant, n'en comprenait pas la gravité, mais cette torpeur semblait de bien mauvais augure à l'expérience plus développée de René. Convaincu qu'il fallait essayer de réveiller le malade, le jeune homme s'efforça de lui faire avaler quelques gouttes de son élixir. Ou bien il cherchait par des frictions, des fomentations, à ramener la chaleur dans ce corps qui allait en se refroidissant. Tous ses efforts furent vains. Si le vieillard donnait quelques signes de vie, C'était plutôt une faible marque d'impatience et le désir manifesté qu'on le laissa achever ses jours en paix. Par éclair, pourtant, il leur parut discerner quelques vestiges d'attention sur ce visage de marbre. Même une fois, une légère contraction, comme une ride imperceptible imprimée par un souffle de vent sur une eau tranquille, passa sur son front. Écoutait-il? Entendait-il? Comprenait-il? Jamais René et la jeune Atlante n'avaient causé ensemble comme à cette heure. Ils s'étaient auparavant conté leur histoire. Maintenant, ils se contaient leur être. Dans la parole animée du jeune homme, dans l'ardent intérêt de sa fille, le vieillard avait-il senti passer, à travers les ondes de la mort, le souffle d'une vie dont il s'était volontairement exclu? Au seuil des ténèbres où il allait entrer, un amer regret de tout ce qu'il aurait pu connaître, de ce qu'il allait quitter pour toujours, avait-il serré son vieux cœur? Les deux enfants se penchèrent sur lui, épiant un nouveau signe de réveil ou de conscience, l'appelant affectueusement, le suppliant de dire par un signe s'il désirait quelque chose. Mais non, une immobilité complète. Ils s'étaient trompés sans doute, et ils reprirent leur place près de la couche de Cariclès. L'émotion de l'espérance avait fait monter à la joue d'Atlantis une couleur plus vive que la délicate teinte rosée qui s'y voyait d'habitude. Elle était, à ce moment, d'une si incomparable beauté que René ne pouvait détacher les yeux de son visage, et le regard candide de la jeune grecque, s'étant sans doute enquis de la cause de cette attention persistante. « Je me demandais, dit-il presque involontairement, comment une pareille fleur de beauté avait pu s'épanouir sans que les rayons du soleil l'eussent jamais touchée. « Excusez-moi, ajouta-t-il précipitamment en voyant s'augmenter l'éclat qu'il louait. De pareilles observations sont impardonnables. Je vous jure qu'elles n'étaient point préméditées. La jeune fille n'avait l'art ni de recevoir, ni d'écarter un compliment. Par une modestie innée, elle avait rougi, mais il n'aurait pu lui venir en tête de s'offenser des paroles de René. « Pourquoi, si vous me trouvez belle, ne le diriez-vous pas ? » répliqua-t-elle simplement. « La beauté est un présent des dieux. Mon père me l'a enseigné. » Et je les remercie de m'avoir faite belle à ses yeux et aux vôtres. D'ailleurs, ne croyez pas que je n'ai jamais vu la lumière du blanc Phébus.
Que me dites-vous là ?
S'écria René.
Quoi ? La science de ce vieillard sublime serait allée si loin ? Elle aurait su trouver un instrument capable de percer la noire et pesante masse des eaux et de faire arriver jusqu'à vous la lumière du jour ? En vérité, ceci me confond.
Non, dit Atlantis. « Ce n'est pas à l'aide d'instruments d'optique que j'ai pu voir le foyer glorieux qui vivifie le monde. Certes, la science de mon père, l'aigle de la mystérieuse Égypte, augmentée de ses profondes méditations, me paraît laisser bien loin ce que vous me dites des conquêtes modernes dans le domaine des sciences physiques, mais c'est de mes propres yeux que j'ai vu le soleil.
« Est-il possible ? Vous êtes venu dans notre monde ? Vous serez donc peut-être autorisé à y revenir. Je crois rêver. De grâce, contez-moi cela. Ah, vous ne savez pas ce que cette révélation me donne de joie. »
« Dans votre monde ? » répéta Atlantis avec une inconsciente expression de mélancolie. « Non, je n'y ai pas abordé. Je n'ai jamais quitté le royaume de Tétis. Mon père ne l'eût pas souffert. Jamais même je n'aurais osé lui demander d'enfreindre pour moi la loi sévère sous laquelle nous vivions, en me permettant de monter à la surface de l'eau. Mon père est absolu comme les dieux. Il sait ce qui est juste, et ce n'est pas à une faible jeune fille à discuter ses décrets. Mais lorsque la curiosité à l'humeur inquiète, à l'œil toujours ouvert, a trouvé accès dans votre cœur, lorsqu'elle vous a ravi le sommeil, que peut-on contre elle ? Phébus venait d'accomplir pour la 15e fois sa révolution autour de la terre depuis que j'étais au monde, et mon père, me jugeant digne d'entendre ses confidences, m'avait révélé l'histoire complète de notre peuple. Jusque-là, j'avais ignoré que les Atlantes eussent jamais vécu en haut. Que dis-je ? J'ignorais même qu'il y eût un monde extérieur. Ah ! Que n'eût-il gardé ce secret ? À dater de ce jour, mon esprit connut l'inquiétude, l'agitation, le mécontentement.
j'avais compris. J'étais prisonnière. En vain, Chariclès me vantait la grandeur de mes aïeux, m'apprenait à comprendre l'avantage qu'il y a à naître d'une race noble et opulente, en me montrant l'immense majorité de mes frères, les hommes, courbés sous le joug des puissants, avilis et déprimés par un travail excessif, et ne parvenant même pas toujours, au prix d'un labeur de toutes les heures, à gagner pour leurs petits le morceau de pain nécessaire à la plus misérable existence. Chose étrange, ce parallèle orgueilleux me faisait envier le sort de ces déshérités. Mon père les appelait esclaves. Ah, combien je l'étais davantage! N'avait-il pas le grand air pour pâture, la voûte céleste pour habitation, le soleil pour flambeau? Ces pauvres femmes que mon père me dépeignait mendiant une aumône, traînant leur haillon par les chemins, souvent chargées d'un enfant, qu'elles avaient à peine la force de soutenir dans leurs bras. Oh, que je leur aurais volontiers abandonné la richesse de mes vêtements, l'abondance, la délicatesse de notre table, les gloires de mon passé, la sécurité du présent. Que j'aurais volontiers embrassé leur misère pour respirer une bouffée d'air libre, pour réjouir mes yeux à la vue de mes semblables, pour entendre la voix des humains, le bruit tumultueux de la vie. Tout cela, je le gardais secrètement dans mon cœur. Mais l'œil de Chariclès est perçant, et mon front pâlissait tous les jours sous la pression de cette inexprimable nostalgie de l'air libre. Un jour, mon père me dit, « Atlantis, le souci au front pâle, à la joue creuse, à l'œil hagard est entré dans ton cœur. « Père, répondis-je, pardonnez à une faible fille qui n'a pas su lui en défendre l'accès. Oui, je le confesse, le noir souci s'est emparé de mon âme. » Il l'étreint de sa serre cruelle. Et tu ne t'es pas confié à ton père? Le respect, la crainte de vous déplaire ferme ma bouche. Parle, je t'y autorise. Je lui dis alors, moins librement qu'à vous peut-être, car je craignais qu'il ne vît un reproche dans cette inquiétude, le besoin de changement, le grand désir qui était né en mon cœur de voir cette terre des vivants, ma vraie patrie, d'échapper un instant à cette tombe qui m'écrasait. Chariclès ne dit pas grand-chose en réponse à ma confession. Lorsqu'il parle, ce sont des oracles qui tombent de ses lèvres, et s'il eut un mot pour blâmer mes aspirations, la condamnation aurait été sans appel. Mais il fut sans doute touché de ma détresse, quoique ni ses discours ni l'expression de son visage ne m'en eussent rien témoigné. Car bientôt, je le vis occupé des préparatifs d'un voyage. Mon père est aussi fin ouvrier qu'il est mécanicien puissant. L'exécution va chez lui de pair avec le plan. De ses nobles mains, il construisit une chaloupe hermétiquement close, un bateau aérostat à vessie natatoire de gaz hydrogène qui devait nous permettre de nous élever jusqu'à la surface de la mer. Ce navire était une merveille de légèreté et d'élégance.
« Ah ! » s'écria René. « Combien j'aimerais de voir ce chef-d'œuvre de Chariclès !»«
J'y pense, en effet, » dit la jeune grecque avec un sourire. « Il m'est inutile de vous vanter un prodige que vous avez accompli vous-même. En sens inverse, voilà tout. Hélas, vous ne la verrez pas, cette embarcation qui m'était si chère. Chariclès l'a détruite de ses propres mains. »«
Ciel ! Le noble artiste devint-il la proie d'un accès de démence passagère ?»«
Non !» reprit Atlantis en secouant la tête. Jamais les sombres furies n'enveloppèrent d'erreur et de ténèbres le clair entendement de Chariclès. Ce fut un acte délibéré qu'il accomplit en faisant ainsi rentrer dans le néant l'œuvre de son génie. Voici ce qui se passa. Tout était prêt pour l'ascension que j'appelais de mes vœux secrets. Tremblante d'impatience, j'attendais que mon père m'autorisât à mettre le pied dans le bateau qui devait nous emporter d'un élan jusqu'aux régions tant souhaitées. En ce moment, il me prit par la main et me parlant avec solennité. « Atlantis, me dit-il, le but auquel tu as aspiré avec une ardeur maladive va être atteint. Avant que tu voies ces espaces qui attirent ta curiosité, il est de mon devoir, il est dû à la tradition qui me guide, de t'avertir de ceci. Notre excursion sera limitée à la plaine liquide. Ni Chariclès ni Atlantis n'aborderont sur des continents habités par les barbares. » En second lieu, nous éviterons de nous signaler à l'attention des navires qu'il pourra nous être donné de rencontrer. Enfin, et c'est le point sur lequel j'insiste, ces promenades seront très rares, courtes, Et si jamais je découvrais, Atlantis, que ton cœur y est attaché, que tu soupires après un autre milieu que celui où ont vécu tes pères, je n'hésiterais pas à briser l'instrument qui aurait aidé à te rendre infidèle à ton foyer. Je promis tout ce que voulait mon père. Je pensais qu'il ne dépendait que de moi de me plier à sa volonté. Et j'étais d'ailleurs si heureuse de partir que c'est à peine, je crois, si je l'entendis. Le bateau quitte son port d'attache d'un élan prodigieux et se trouve en quelques secondes à la surface de la mer. Quel spectacle ! Phébus, ayant presque fini sa course, allait plonger avec son char flamboyant au bord de l'étendue. Déjà une étoile brillait au ciel. Peu après, le soleil disparut. D'autres étoiles s'allumèrent. Il soufflait une brise embaumée, divine. Dieu, quelle merveille ! Comment peut-on jouir tous les jours de tels biens et se dire malheureux ? Mon père me nommait les constellations, m'apprenait à m'orienter. Je l'entendais comme dans un rêve. Il me semblait être au nombre des dieux. Mais bientôt une douleur aiguë vint me frapper au cœur. Cariclès disait « Prépare-toi à redescendre ». Je fus sur le point de laisser échapper une prière, un mot de supplication. Je m'arrêtais à temps. Pour la première fois, je dissimulais avec une force que je ne me connaissais pas. Je me commandais un visage riant et j'acceptais d'un air d'indifférence le signal du retour. Il me fallait à tout prix revoir ces cieux splendides, sentir le balancement des vagues, m'abreuver à cet air béni. Je sus attendre, sans trahir aucune hâte, que mon père décréta une nouvelle excursion dans ce monde supérieur. Mais j'étais dévorée d'impatience. Enfin, l'instant arriva. Celle-ci dura plus longtemps. Mon père, content de moi, me donnait cette récompense. Ainsi nous recommençâmes à diverses reprises. Je ne vivais plus que pour ces promenades. Une nuit, il n'y a pas bien longtemps, nous flottions, poussés par un zéphyr léger, lorsqu'apparut à quelque distance un navire de proportions élégantes. Peu à peu, il se rapprochait. Il me semblait distinguer une forme humaine sur le pont. « Ah, jeune étranger, vous ne pouvez savoir quelles émotions traversèrent l'âme de la pauvre Atlantis. Mon père était absorbé ou endormi, je ne sais. Il ne paraissait prêter aucune attention à ce qui se passait autour de lui. Soudain, le dieu de l'harmonie s'empara de moi. Sans le vouloir, sans le savoir presque, je donne ma voix aux sentiments qui m'oppressent. Un chant s'échappe de mes lèvres. » Mon père m'avait soigneusement élevé dans l'art de la musique, mais ceci n'était point appris. C'était l'expression douloureuse, irrésistible, spontanée, de l'aspiration de mon âme. Je me tus, consolée d'avoir donné une forme à mon angoisse. Mais que vous dire de mon émoi lorsque, à peu de distance, une voix harmonieuse s'éleva à son tour sur les eaux. La mer m'apportait comme une réponse à mon appel. Les paroles, je ne pouvais les comprendre. Mais j'ai retenu la mélodie. Jusqu'à mon dernier jour, elle retentira dans ma mémoire. « Atlantis, Atlantis !» s'écria René qui, depuis un instant, pouvait à peine contenir son agitation. « Cette mélodie, j'en suis sûre, je la connais. Laissez-moi vous la dire. » Et d'une voix que l'émotion n'empêchait nullement d'être pure et vibrante, il dit les premières phrases de l'hymne de Marcello. Les cieux immenses racontent. Atlantis, les yeux dilatés, semblait pétrifié par la surprise. Mais bientôt, deux larmes, les premières qu'il eut vues dans ses yeux, dirent sa douce joie. « C'était vous ? C'était vous ? » articula-t-elle enfin d'une voix entrecoupée. « Oui, c'était moi, c'était vous !» répétait René, non moins émerveillé, non moins heureux. « Ah, cher Atlantis, voilà un lien qui vaut bien 10 ans d'amitié. C'était pendant mes sondages autour de la mer Sargasse, à bord de la Cinderella. Il était minuit. J'étais seule sur le pont quand j'entendis une voix divine monter dans l'air pur. Que de fois j'ai tenté, mais en vain, de transcrire ces stances incomparables.
« Je ne saurais les redire moi-même, » dit Atlantis. « Tout ce que j'en sais, c'est qu'elles étaient sorties de mon cœur comme une prière. » Et aussi qu'elles me fermèrent à jamais cette porte ouverte sur l'espace. Au son de cette voix inconnue, Cariclès était sorti soudain de sa rêverie. « Malheureuse, s'écria-t-il. Qu'as-tu fait? Pareil aux sirènes trompeuses, emploies-tu un don du ciel à enchanter ton propre père, à endormir sa vigilance? As-tu oublié tes serments? C'en est fait, Atlantis. Dis adieu à la voûte étoilée, aux flots mouvants, à l'air séducteur. Jamais tu ne les reverras. Les flancs du bateau se refermèrent sur nous, et nous nous enfonçâmes dans la mer. Un fragment de votre mélodie résonnait encore à mon oreille ravie. Le lendemain, Chariclès avait détruit son chef-d'œuvre. Aucune parole ne peut vous peindre ma douleur. J'avais perdu l'espérance.